Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Médecin, ministre de la Santé et des Solidarités. L'exécutif sous pression du variant Omicron avec un pas de plus donc depuis hier soir vers l'obligation vaccinale puisque le pass sanitaire va se transformer en pass vaccinal. C'est donc le vaccin et non plus le test qui fera office de sésame. Pourquoi est-ce que le pass sanitaire n'est plus suffisant ?
C'est simple, c'est clair, c'est limpide, c'est assumé. Nous voulons que les Français se fassent vacciner. Il y a dans notre pays 52 millions, un peu plus, de Français qui sont vaccinés. Il en reste environ 5 qui ne le sont pas. Dans nos hôpitaux, il y a deux catégories de malades. Hospitalisés, voire en réanimation. Les gens non vaccinés, quel que soit leur âge d'ailleurs. Et les gens qui, bien que vaccinés, n'ont pas un système immunitaire en bon état de fonctionnement, parce qu'ils sont très âgés, parce qu'ils sont greffés, parce qu'ils sont immunosupprimés. Et donc le vaccin ne les protège pas suffisamment. Et nous voulons éviter une vague hospitalière très forte. Nous voulons ne pas faire peser de contraintes supplémentaires sur les Français qui se sont fait vacciner. Et donc nous voulons renforcer encore notre couverture vaccinale nationale sous la menace de ce nouveau variant Omicron.
Est-ce qu'on va doucement vers un 12e vaccin obligatoire en France ? Hypothèse possible, disait mercredi le chef de l'État.
Je suis même convaincu que le pass vaccinal est plus efficace qu'un système d'amende. Pourquoi ? Il va y avoir un débat parlementaire. Dans ce débat parlementaire, nous allons, gouvernement, poser un certain nombre de choses sur la table. D'abord, nous souhaitons que le pass sanitaire devienne un pass vaccinal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'alternative de test pour entrer dans un établissement recevant du public qui applique le pass actuellement, c'est-à-dire les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres et les grands événements qui appliquent le pass. Mais nous souhaitons aussi que les parlementaires, à l'occasion du débat qui aura lieu, puissent réfléchir à des renforcements éventuels. Ce sera leur liberté de le faire.
Où ça ?
Transformer le pass sanitaire en pass vaccinal dans les transports tels que les trains et les avions, le Premier ministre l'a évoqué.
Sur les lieux de travail par exemple aussi ou pas ?
Éventuellement, se poser la question d'un pass, pas vaccinal cette fois-ci, mais sanitaire, pour aller travailler, c'est une question légitime, qui est d'ailleurs appliqué chez certains de nos voisins, les Allemands, ont le fameux pass 2G, le pass 3G. On
ne
peut pas empêcher les gens de travailler
favorable.
S'ils ne sont pas vaccinés, mais on peut exiger d'eux qu'ils passent un test, par exemple, s'ils ne sont pas vaccinés. Ça fait partie des questions qui doivent être posées. Mais je vais encore plus loin. Je pense que dans le débat parlementaire, on peut reposer la question du contrôle d'identité associé au contrôle du pass. C'est une question qui avait été abordée dans le texte initial et qui avait été retirée dans le cadre du débat parlementaire.
Parce qu'il y a trop de fraudes ?
Parce qu'il y a des fraudes. Même le mot « trop » est en trop. Dès lors qu'il y a une fraude, dès lors que le système n'est pas inviolable, considérant la menace Omicron actuelle, nous devons vraiment mettre le maximum de chances de notre côté. Donc les parlementaires, il y aura une concertation qui va être ouverte par le Premier ministre dès les prochains jours, avec les groupes politiques, les élus, les partenaires sociaux, j'y participerai évidemment. Et dans la foulée, le projet de loi qui va être rédigé et qui pourra être enrichi et travaillé au Parlement pour aller vers ces directions. Vous savez, nous faisons le choix en France de ne pas fermer d'activité pour tous les Français.
Mais il faut
que
ça soit légal de vérifier l'identité.
Il faut que ça puisse. C'est pour ça que ça passe par une loi. C'est bien pour vérifier que les choses soient légales.
Mais aussi c'est pour que ça
corresponde
que ça avait été retiré la première
au souhait de la représentation nationale. Il y a toujours des possibilités d'avancer. Je constate que certains de nos voisins le font. A contrario, le Premier ministre, vous l'aurez noté, n'a pas annoncé de fermeture d'établissements recevant du public dans notre pays. Je constate que le Danemark, par exemple, qui est un pays qui a tout vent été cité comme un des pays du nord de l'Europe qui ne fermait pas, a annoncé hier la fermeture des bars, des restaurants, des cinémas, des cafés face à la menace Omicron. En France, notre excellent niveau de couverture vaccinale nous permet de ne pas le faire, mais aussi le sens de responsabilité des Français qui font suffisamment attention et surtout ce pass et la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal doit nous permettre d'éviter d'interrompre des activités du quotidien pour les 90%, 91% de Français qui sont déjà vaccinés.
Mais précisément, comment serait sanctionné le non-respect d'une vaccination qui deviendrait quasi obligatoire ? Par une amende, par exemple ?
Et là, vous ne pouvez pas accéder à des établissements. Vous ne pouvez pas aller dans un bar, dans un restaurant, dans un cinéma, dans un théâtre, si vous n'êtes pas vacciné. Donc la contrainte est assez forte. Mais je voudrais quand même qu'on dise un mot du contexte, si vous en êtes d'accord. La raison pour laquelle nous opérons cette bascule supplémentaire. Ça a été d'abord une montée progressive. Souvenez-vous, la vaccination a été ouverte, et nous venons de loin, 37% des Français voulaient se faire vacciner il y a un an, ils sont plus de 90% s'être fait vacciner. Morissette est loin. On vaccine désormais quasiment 1 million de Français par jour. La logistique est 950 000, plus que rodée, elle est amplifiée. Je remercie tous les acteurs qui se mobilisent dans les centres et en ville et qui le font. Nous avons ensuite mis en place le pass sanitaire à la demande du président de la République. On a gagné 10 millions de vaccinations. On a ensuite renforcé le pass sanitaire en réduisant la durée de validité du test à 24 heures. Nous avons encore gagné sur la vaccination.
Donc là, vous vous dites qu'avec le pass vaccinal, vous allez gagner les 6 millions, enfin les 5 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés, vous êtes sûr ?
Nous le faisons d'abord pour la protection de ces Français eux-mêmes, qui ne se rendent pas compte. Je vais dans les services de réanimation. Hier, j'ai réuni en visio 1000 acteurs de la réanimation française. Les patients qui sont en réanimation, qui ne sont pas vaccinés, pour certains d'entre eux, continuent d'assumer leur choix préalable de ne pas se faire vacciner, considérant qu'ils ont pris moins de risques. C'est faux. C'est faux. Et au bout du compte, avec des vagues qui se succèdent, Delta puis maintenant Omicron, on ne peut pas continuer à considérer que ce choix de ne pas se faire vacciner serait un choix qui n'aurait pas de conséquences.
Mais pourquoi ne pas aller jusqu'à la vaccination obligatoire, puisque finalement les Allemands vont le faire là, dans les mois qui viennent? Pourquoi nous on n'y va pas jusque-là?
D'abord, les pays qui mettent en place un système d'amende pour la vaccination sont des pays qui espèrent atteindre notre taux actuel de couverture vaccinale. Je le dis. Ensuite, en discutant avec les médecins, ils sont d'accord avec moi, les patients qui sont en réanimation aujourd'hui et qui n'étaient pas vaccinés, si vous leur mettez une astreinte de 100 euros par mois, comme certains pays qui font l'obligation vaccinale autour de nous le font, ça ne changera rien. Les gens paieront. Parce qu'ils sont véritablement réfractaires. Certains ont peur, encore une fois, des peurs qui ne sont pas rationnelles. Donc ça ressemble plus à une phobie finalement qu'une peur. Et certains sont dans une contestation tellement radicalisée que le simple fait qu'on leur propose la vaccination fait qu'ils le refusent.
Ceux qui ont peur, on va les accompagner ?
Mais nous accompagnons tout le monde. Je l'ai d'ailleurs dit, si quelqu'un qui avait un faux pass et qui avait fait croire qu'il était vacciné décide finalement de se protéger aujourd'hui, nous l'accompagnerons.
Donc ceux qui se repentiront ne seront pas sanctionnés.
L'objectif, c'est de sauver des vies. Vous savez, on ne fait pas ça pour punir qui que ce soit. La menace Omicron est une menace qui est réelle. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore sur ce variant. Je le redis. Les données qui nous reviennent d'Afrique du Sud pourraient être assez rassurantes, avec moins d'hospitalisations, moins de besoins d'oxygène. Enfin, la population sud-africaine est beaucoup plus jeune, beaucoup moins vaccinée, et l'Afrique du Sud a été dévastée par des vagues précédentes. Les données qui nous proviennent du Danemark, s'agissant du variant Omicron, montrent un taux d'hospitalisation qui est quasiment identique à celui constaté avec le variant Delta.
Mais pourquoi on a aussi peu de cas en France? On parle de 310 cas seulement. On a le sentiment que ce variant, et on s'en réjouit, ne s'installe pas entre guillemets en France alors qu'il est en train de s'installer dans des pays voisins européens. Pourquoi chez nous, il n'y a que ce 310 cas? On n'a pas le sentiment finalement que la menace est si importante que cela.
Nous avons repoussé, retardé l'arrivée du variant Omicron dans notre pays avec le contact tracing renforcé et les mesures d'isolement. Nous avons deux semaines environ de décalage avec l'Angleterre ou le Danemark, mais il est parti. Il a commencé. Le variant Omicron est parti. Nous suspectons aujourd'hui entre 7 et 10% des diagnostics positifs de Covid qui sont liés à l'Omicron. C'est pour ça que je parle, pardonnez-moi, c'est important, de lame de fond. Une lame de fond, c'est lorsque plusieurs vagues se cumulent et se conjuguent jusqu'à former un niveau de montée d'eau très important. Nous ne sommes pas sortis de la vague Delta qui avait atteint son sommet. Et là où le Delta commence à décliner un petit peu, vous avez une augmentation du nombre de cas d'Omicron. Il va se passer en France ce qui s'est passé à l'étranger. Une montée très rapide du nombre de cas d'Omicron qui va faire monter le niveau de pression. Juste un point pour vous dire aussi pourquoi est-ce que l'Omicron circule. Et très vite, quand il commence à circuler, nous avons plusieurs clusters hospitaliers de variants Omicron, notamment en région parisienne. C'est pourquoi aussi, je peux vous l'annoncer ce matin, nous allons renforcer l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en intégrant la troisième dose à compter du 30 janvier. Nous ne voulons pas, comme en Écosse, que nous ayons 25 à 30% de soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu'ils seraient tous cas contact et donc en quarantaine. Donc encore une fois, nous renforçons notre dispositif avec la même cohérence que celle que nous suivons depuis plusieurs mois.
Vous renforcez le dispositif, cela dit, y aura-t-il assez de matériel et de moyens humains? Vous parlez des pompiers, de lieux disponibles partout en France à la veille des deux réveillons face à l'ambition que vous avez de faire tester les Français et d'aller se vacciner en même temps.
D'abord, nous sommes, je vous l'ai dit, à presque 1 million de vaccinations par jour. Ensuite, nous avons des millions de vaccins qui sont disponibles. La polémique Moderna est derrière nous. C'est plus de la moitié des injections maintenant qui sont faites en Moderna et ça se passe très bien. Et les Français sont rassurés de ce point de vue-là. Les pharmaciens sont mobilisés, sont sur le pont. Les médecins, j'ai permis aux pharmaciens de recruter des étudiants, de recruter des retraités pour vacciner en pharmacie. Et nous allons faire appel, et c'est important, pour renforcer les centres, à la fois à des militaires qui vont pouvoir se former, mais également et surtout à des gens qui sont titulaires d'un brevet de secourisme. C'est plus d'un million de Français
mais ils savent pas faire
qui
de
sont
piqûres,
titulaires.
Si
ils auront une formation de 2 heures en e-learning, c'est-à-dire sur Internet, et ensuite ils auront une demi-journée en centre pour apprendre à faire une injection intramusculaire.
Et ils seront rémunérés ou pas ?
Croyez-moi, c'est pas sorcier. Ils seront évidemment rémunérés au même titre que d'autres professionnels qui exercent en centre. J'ai pas le chiffre précis, mais ça doit être dans les 150 ou 200 euros la demi-journée. Donc c'est attractif. Et ce qui permettra de mobiliser encore plus de bras pour vacciner et venir en soutien des soignants. Et en même temps permettre aux soignants qui sont dans les centres progressivement de retrouver l'exercice hospitalier parce qu'on va avoir vraiment besoin d'eux avec la vague qui va monter.
Un mot sur la vaccination des enfants. Parce que la France, elle semble un peu à la traîne face à l'Espagne qui est en pointe dans ce sujet. L'Italie, le Portugal vont emboîter le pas. Pourquoi est-ce que la France apparaît plus frileuse sur le sujet de la vaccination des 5-11 ans?
Vous savez, sur la question de la vaccination, j'ai pris l'habitude depuis un an où on est trop prudent ou on n'est pas assez. Très factuellement, le Conseil consultatif d'éthique que j'avais saisi a rendu ses conclusions hier. Il nous dit qu'on pourra y aller.
Ouais.
La Haute Autorité de Santé va rendre ses conclusions au tout début de semaine et va nous dire vraisemblablement qu'on peut y aller.
On peut y aller, mais sans obligation pour l'instant.
Bien sûr. Et le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin, après avoir consulté les données américaines en vie réelle, basées sur la vaccination avec rappel de 2 millions d'enfants américains, ce qui nous permettra de disposer de toutes les informations, de les communiquer en transparence et de rassurer. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on prend 3 jours d'écart avec certains de nos voisins? Parce que la France est un pays qui doute plus que certains pays comme l'Espagne, par exemple. En Espagne, c'était 70% il y a un an à vouloir du vaccin. Nous étions 37%. À l'arrivée, nous avons quasiment la même couverture vaccinale. Mmh. Donc je préfère un démarrage en sécurité, en transparence, et que ces quelques jours de latence avant de vacciner les petits, nous puissions les utiliser pour vacciner les enfants qui sont à risque de faire des formes graves, ce que nous faisons dans notre pays. Depuis le début de la vaccination, il y a plus de 20 000 enfants de 5 à 11 ans qui ont été déjà vaccinés parce qu'ils étaient à risque de faire des formes graves. Nous continuons et si tout va bien, le 22 après-midi, nous démarrons la vaccination des enfants dans les centres adaptés pour les enfants.
Mais si l'on en croit votre collègue au ministère de l'Éducation nationale, les écoles, dit-il, ne sont pas un milieu particulier de contamination. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
L'effet, c'est que le virus circule beaucoup chez les enfants. Alors que ce soit à l'école ou que ce soit à la maison, le virus circule beaucoup chez les enfants et je crois que tous les parents qui ont un enfant scolarisé, ont pu constater qu'il était au moins une fois qu'à contact au cours des dernières semaines. C'est pas forcément l'école. Je suis pas du tout en train de dire que le ministre de l'Éducation nationale se trompe. Je dis juste que le virus circule fortement. On a atteint des taux d'incidence de 800 dans les catégories des enfants, ce qui était la catégorie d'âge où le virus circulait le plus. Ils sont pour rien, les petits, hein. Mais ils sont les uns à côté des autres. Le port du masque, c'est compliqué de le respecter à la récré. Ils sautent dessus, ils se trompent de verre à table. Enfin, voilà, chacun peut imaginer. Et il s'agit à la fois de protéger les enfants, et les protéger leur éducation, parce qu'un enfant qui n'est pas vacciné avec une vague d'Omicron, c'est un enfant qui aura beaucoup plus de mal à aller à l'école. Mmh. Et c'est aussi protéger les parents et les grands-parents.
Alors le Premier ministre hier a parlé également de moyens supplémentaires apportés dans les services de réanimation. De quels moyens supplémentaires est-ce qu'on parle exactement?
Il y a beaucoup de mesures de ressources humaines, notamment dans la période des fêtes. Vous savez, on a conscience de l'effort qu'on demande à nos soignants. Mmh. Ils sont crevés, ils ont multiplié les heures sup, ils ont retardé les vacances. Et là on leur demande de refaire ça. Je vous assure que c'est pas très confortable quand on est ministre de la Santé, soi-même soignant, que d'aller voir des collègues qui sont fatigués et leur dire qu'il faut encore mettre un coup de
collet. Donc où est-ce qu'on trouve des moyens humains?
On va doubler d'abord le tarif des heures supplémentaires. On va doubler aussi le tarif du temps de travail additionnel. On va doubler aussi la reprise des vacances qui ne seraient pas prises. C'est-à-dire qu'un soignant qui renoncerait à 15 jours de vacances, il pourra toucher entre 2 et 4 000 euros s'il renonce à ses jours de vacances dans la période des fêtes. Ce qui n'est pas rien. On espère que cette mesure de ressources humaines sera une motivation supplémentaire pour aller chercher le surplus d'énergie nécessaire pour pouvoir renforcer les équipes. On déprogramme des soins, et vous connaissez cela. On déclenche les plans blancs dans les différentes régions et on remonte le niveau des réanimations progressivement en fonction du nombre de patients qui relèvent de la réanimation. On s'adapte toujours au niveau de la pression sanitaire. Nous l'avons fait depuis 2 ans. On nous a dit à 4 reprises que l'hôpital ne tiendrait pas.
Mmh. Il a tenu. Mais si les vagues s'enchaînent.
Il a tenu parce que les soignants sont formidables.
Mais si les vagues s'enchaînent, on va finir par manquer de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants.
Alors l'enquête, vous savez, l'enquête hospitalière que j'avais diligentée montre que nous avons 2% de lits de fermés de plus qu'en 2019, c'est-à-dire avant la vague épidémique, ce qui factuellement n'est pas une catastrophe, mais par contre, qui s'explique d'ailleurs par de la fatigue, de l'usure, des difficultés un peu plus importantes à recruter. J'ai augmenté de 6 000 le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes en formation, de 2 000 le nombre de médecins en formation. Nous faisons travailler le privé et le public. J'ai appelé aussi le privé à la rescousse, y compris le secteur libéral, pour qu'il puisse venir renforcer les collègues dans les hôpitaux à mesure que la pression monte. Et nous réalisons déjà de premières évacuations sanitaires. 2 évacuations ont été faites hier depuis la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vers, je crois, la Bretagne.
Ça va s'accélérer dans les semaines qui viennent?
On ne pourra pas en faire des centaines, je l'ai dit en transparence, on ne pourra pas faire ce qu'on a fait lors de la première vague, des centaines d'évacuations par TGV, parce que l'épidémie est partout. L'épidémie est partout.
Vous disiez avoir rencontré hier en visio pas mal de soignants, notamment les chefs de service des soins critiques, qui demandent des réponses structurelles aux difficultés de l'hôpital. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin?
Le Ségur, ils le savent. J'ai terminé hier le Tour de France des régions pour annoncer 19 milliards d'euros pour désendetter les hôpitaux, reconstruire des hôpitaux. 3 000 hôpitaux et EHPAD.
19 milliards, ça suffit?
3 000 hôpitaux et EHPAD, c'est 25 ans d'investissement hospitalier en one shot, en une fois. Plus 10 milliards d'euros de hausse de salaire, plus les transformations, etc. Et vous savez, les soignants, ils sont très très au fait de ce qui est en train de se passer. Et l'arrivée du variant Omicron est un facteur d'inquiétude supplémentaire. Donc aujourd'hui, on est quand même très 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 focalisé vers ce risque de variant. J'y reviens une seconde parce que vous m'interrogez peu là-dessus, mais c'est pour donner quand même du sens et de la lecture aux annonces qui ont été faites par le Premier ministre Jean Castex hier. C'est un virus dont on sait qu'il se multiplie jusqu'à 70 fois plus dans les cellules une fois qu'il vous a contaminé. Donc c'est un virus qui est beaucoup, 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 beaucoup plus contagieux que le variant Delta que nous avions connu. C'est
plus un virus contagieux, mais moins grave, paraît-il.
On ne sait pas, je vous l'ai dit. En Afrique du Sud, manifestement moins grave. Au Danemark, manifestement aussi grave. Donc on n'a pas les informations factuelles. Il se multiplie tellement vite que c'est pas comme les variants précédents où on a 3 semaines ou 1 mois pour regarder comment ça se passe à l'étranger avant de réagir. Comprenez-moi, si c'est 10% des cas de variant Omicron aujourd'hui dans notre pays, ça veut dire que la semaine prochaine, c'est 25 ou 30%, et ça veut dire que dans 15 jours, il est majoritaire dans notre pays.
Bon, alors pourquoi avoir sanctuarisé...
Sur une vague Delta qui est encore à un niveau très élevé, nous avons déjà 50 000 cas par jour. Je ne dis pas que ça va arriver à tous les coups, comprenez-moi. Je dis juste, en transparence aux Français, qu'avec un variant aussi contagieux, ceux qui ne sont pas vaccinés seront contaminés, et qu'il y aura vraisemblablement des cas graves, peut-être pas autant qu'avec le variant Delta, mais si nous sommes plus nombreux à être contaminés, il y aura forcément une partie d'entre nous qui feront des cas graves. C'est pourquoi nous agissons, c'est vraiment le sens du discours et du propos du Premier ministre hier. Un virus qui est aussi contagieux, les Anglais parlent quand même de 200, 300, 400 000 cas potentiels par jour. Je suis pas dans le catastrophisme, mais vous me connaissez depuis 2 ans. Et je suis plutôt en train de vous dire, allons-y factuellement, rationnellement. C'est ce que je vous dis, mais je vous dis factuellement et rationnellement, avec un variant aussi contagieux qui circule dans notre pays, qui circule sur la planète, et l'Organisation Mondiale de la Santé, le Centre Européen et Mondial des Maladies Infectieuses nous disent, tous les deux, ce variant va contaminer tous ceux qui ne sont pas vaccinés.
Donc,
il faut vous protéger.
Est-ce qu'il était raisonnable de sanctuariser Noël, comme le Premier ministre en soi l'a annoncé hier, puisque les Français peuvent avoir le sentiment, malgré tout, d'avoir le droit de passer Noël quasiment normalement, en respectant des jauges peut-être, mais est-ce que c'est un pari risqué de la part du gouvernement de faire ça ?
On fait la différence entre Noël et Nouvel An. Nouvel An, vous aurez entendu, il n'y a pas de vente d'alcool, pas de vente alimentaire à l'extérieur, annulation des feux d'artifice, annulation des cérémonies de vœux, annulation des grands événements, parce que ce sont des moments de très fort brassage de populations qui ne se connaissent pas. Noël, c'est différent, c'est en famille. Vous faites un repas de Noël en famille. Moi, mon repas de Noël, je vous le dis, tout le monde est vacciné. Et les personnes qui sont fragiles, je suis sûr qu'ils ont tous eu leur 3e dose. Mais parce que je suis vigilant, je vais acheter en pharmacie une boîte d'autotest que je mettrai à disposition des personnes qui viendront. On sera une petite dizaine, je vais pas trier un frère ou un cousin. Donc on sera une petite dizaine, je vais permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir se faire un test. On sait très bien qu'on va pas garder le masque quand on sera dans le salon, parce que de toute façon on va manger, on va boire la coupe de champagne, donc il est illusoire de se dire qu'on garde le masque tout le temps. Donc ça veut dire qu'avec un virus aussi transmissible, s'il y en a un qui devait l'avoir dans la pièce, les autres seront en contact avec ça. Par contre, si on est tous vaccinés, et si on a un doute, si on a eu un autotest auparavant, on a déjà un niveau de sécurité qui est plus important. Puis après, on se tiendra au courant. Si quelqu'un fait des symptômes dans les jours qui suivent, attention, tu dois te faire tester,
etc. Vous mettez une
jauge
ou pas? Vous recommandez une jauge malgré tout?
Mais on met pas de jauge, parce que les gens ont très bien compris. La jauge, c'est tout le monde vacciné à table. Enfin, je veux dire, c'est juste avoir conscience que si vous avez une grand-mère qui n'est pas vaccinée à la table et que vous êtes 20, vous prenez un risque, je le dis, un risque énorme.
Olivier Véran, à propos de l'autotest, on n'est pas obligé d'aller fouiller aussi loin dans la narine. Question sur la fiabilité des autotests, est-ce qu'elle fait débat pour vous ?
Allez, l'autotest est moins fiable que le test antigénique et moins fiable que le test PCR. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas trouvé son public en France, il faut dire les choses actuellement. Par contre, et je l'ai dit, c'est pas un totem d'immunité, je l'avais dit il y a déjà un an de cela, je continue de le dire. Néanmoins, si vous êtes vacciné, pleinement vacciné, que vous avez un autotest que vous réalisez avant un dîner qui est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de virus dans la narine pour qu'on puisse le détecter, ça veut dire qu'il n'y a probablement pas assez de virus dans la narine, même si vous étiez infecté, pour le transmettre aux voisins.
Avec un bémol aussi, c'est qu'avec l'autotest, il n'y a pas de traçage, ce qui pose aussi un bémol.
Bien sûr, il n'y a pas de traçage. Si jamais quelqu'un fait un autotest et qu'il est positif, il suffit pas qu'il dise « bon, tant pis, on fera un dîner la semaine prochaine, je m'isole ». Il faut évidemment qu'il se fasse tester en confirmation PCR pour qu'on puisse aussi vérifier si c'est un variant Omicron ou non.
Et il n'y aura pas d'autotest gratuit distribué dans les pharmacies finalement ?
Il n'y a pas d'autotest gratuit distribué en pharmacie. L'autotest coûte 5,20 euros.
C'est un coût pour certaines familles quand ils sont nombreux.
Les PCR, les tests antigéniques sont gratuits, on en fait près d'1 million par jour. Enfin, je veux dire, tous les coûts ont été pris en charge depuis le début par les solidarités nationales. Là.
Sur le cas de la Guadeloupe, plus d'un mois après la grève générale contre le pass sanitaire, le mouvement continue en Guadeloupe. Les discussions avec le gouvernement, elles vont reprendre après les fêtes, hein, si on a bien compris. Avez-vous les moyens d'imposer des règles sanitaires dans ce département d'outre-mer qui accuse les gouvernements précédents de les avoir déjà contaminés, pollués avec les pesticides?
La Guadeloupe répond à l'obligation vaccinale des soignants avec un taux d'acceptation qui est dans les faits très élevé. Il y a déjà un mois, on avait plus de 90% de soignants qui étaient vaccinés dans les hôpitaux et 97% des étudiants en santé qui étaient vaccinés. Donc, moi, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est les faits et c'est la protection sanitaire de nos soignants et des habitants. Or, ceux qui devaient être vaccinés avec l'obligation le sont.
Merci beaucoup Olivier Véran d'être venu commenter ce matin et annoncer de nouvelles précisions sur les mesures sanitaires pour les fêtes de fin d'année. Merci d'être venu à France Inter et bonne journée, bon courage.
Merci.
Il est 8h42.